إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، ما زلنا نقرأ كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله تعالى. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة باب الجار السوء. باب الجار السوء. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول، فإن جار الدنيا يتحول. Donc on passe بإذن الله عز وجل au chapitre numéro 65 du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Hafidh Muhammad ibn Ismail al-Bukhari رحمه الله تعالى. Donc le chapitre, il est intitulé Al-Jar Sou, le mauvais voisin. Et le hadith est numéroté 117. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: Sadaqa nous a rapporté. Donc ici c'est Sadaqa ibn al-Fadl al-Marwazi. Sadaqa ibn al-Fadl al-Marwazi rahimahullah ta'ala, qui a dit: Sulayman ibn Hayyan nous a informé, selon Ibn Ajlan, selon Saïd, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, qui a dit: parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le mauvais voisin dans la demeure de résidence, hein, on expliquera après inshallah ta'ala, dans la terre ou la demeure de résidence. Et certes, le voisin de la dunya change. Le voisin de la dunya, le voisin yani ici-bas, il change. Il ne reste pas yani. فهذا الحديث حديث حسن أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وهو حديث حسن. Ce hadith, il est bon, il est حسن. Voyez, donc il a atteint le degré qui fait que le hadith, il est valide, il est accepté. Et on peut l'affilier au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière normal et correct. رجال الإسناد منهم كما قلنا صدقة. On a dit parmi les transmetteurs du hadith, on a Sadaqa ibn al-Fadl al-Marwazi, rahimahullah ta'ala. C'est la personne dont a pris l'imam al-Bukhari le hadith. ثم سليمان هو ابن حيان هو أبو خالد الأحمر الكوفي وهو ثقة صدوق يخطئ. Puis on a un certain Suleyman ibn Hayyan fait partie des transmetteurs fiables de hadith, même s'il se peut que des fois il se trompe. ثم ابن عجلان يريد محمد ابن عجلان وهو ثقة كل ما في حفظه. Puis on a un certain Ibn Ajlan, Muhammad Ibn Ajlan, qui fait partie également de transmetteurs fiables de hadith, même si certains ont critiqué sa mémorisation. Hein? C'est pas pour rien que le hadith n'a pas atteint le degré de sahih. Il a seulement atteint le degré de hassan. Mais le hassan, c'est aussi une catégorie de hadith qui fait que le hadith, il est valide, malgré ça. طيب. ومنهم سعيد. Il y en a un certain سعيد juste avant Abu Huraira. Donc la personne qui a pris le hadith d'Abu Huraira, il s'appelle سعيد. Donc ici سعيد dont parle l'imam al-Bukhari, c'est سعيد ibn سعيد al-Maqburi. سعيد ibn سعيد al-Maqburi رحمه الله تعالى. معاني الكلمات. قال الشيخ أسلان في ذا الله اللهم الميم هنا عوض عن ياء النداء فمعنى ذلك يا الله ها؟ إذا قلت اللهم كأنك تقول يا الله وقد اعترض على ذلك بأنه لا يجمع بين المعوذ والمعوذ عنه وقد اجتمع كما في قول شاعر إني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم أو أقول يا اللهم يا اللهم إلا أن الشعر يمكن أن يكون فيه من الاستعمال من الضرائر ما هو معروف وقال العلامة ابن القيم رحمه الله إن الميم إنما هي عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا حكيم يا عليم يا سميع يا بصير إلى آخر أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. Donc dans le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en invoquant Allah, il dit Allahumma. Hein? Donc Allahumma, mot que l'on dit dans de très nombreuses invocations, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux dire Allahumma, en t'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on a, en vérité on a Allah, le nom d'Allah jalla wa ala, Allah, et on a un mime en plus. On a rajouté à la fin de Allah un mime, avec la shadda et la fatha. La fatha, ça fait Allahumma. Donc le mime ici, il dit le cheikh, en fait, il vient remplacer le ya d'interjection. Le ya d'interpellation. Lorsque tu interpelles quelqu'un. Ya fulan. Ya Allah. Donc, au lieu de dire ya Allah, tu peux dire Allahumma. C'est pareil. Que tu dises ya Allah ou Allahumma, c'est pareil. Pourquoi? Parce que le mim, à la fin de Allah, lafd al-jalala, subhana, eh bien, remplace le ya. Taïeb. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut, du coup, comme le feraient peut-être certains, dire en même temps ya et en même temps Allahumma. Par exemple, ya Allahumma. Ou ya Allahumma. Eh bien, cela a été dit par certains, notamment le poète. Hein? Dans le sens rapproché de ses vers poétiques, il a dit, certes, lorsque yani, je suis touché par une épreuve, je dis, Yallahumma, Yallahumma. Donc là, on voit que le poète, Et vous savez que les poètes utilisent des termes ou des expressions qui sont utilisées par les Arabes, de souche, les vrais Arabes, les purs, qui utilisent la langue arabe pure et qui n'a pas été mélangée ou diminuée. Donc il a réuni ici entre Ya et Allahumma, Yallahumma, Yallahumma. Sauf que, il dit les cheikhs que dans les règles des poèmes, il se peut que des choses soient dites et utilisées, mais qui font partie des choses qui sont spécifiques et appropriées à la science poétique. Parmi les choses qui sont exigées par l'équilibre et l'harmonie des vers poétiques et qui ne sont pas forcément possibles dans la langue arabe, de manière générale. Il dit, le très grand savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit que le mim ici dans Allahumma, il ne sert qu'à indiquer et à remplacer tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus beaux. Donc lorsque toi tu dis Allahumma, Allahumma kaza wa kaza, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith, eh bien sache que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les noms d'Allah. C'est comme si tu disais, ça revient à dire en fait, ô Allah, ô Rahman, ô Rahim, ô Hakim, ô Alim, ô Sami', ô Basir, ô Aziz, ô Hayy, Qayyum, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Lorsque tu dis Allahumma, tu invoques Allah par tous ses noms. Allahu Akbar. Par tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Ceux qu'Allah Jalla wa Ala t'a informé et ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas informé. Allahu Akbar. Non. هذه كانت فائدة جميلة ما شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأستجير. Donc qu'est-ce que ça veut dire أعوذ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ ça veut dire je me réfugie, je cherche protection, je cherche asile auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. طيب. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. فجار السوء الذي لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي عن نواهيه. Donc le mauvais voisin, c'est qui le mauvais voisin? C'est celui, dit les cheikhs, qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne s'engage pas et qui n'accomplit pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et qui ne s'abstient pas de ce qu'Allah jalla wa ala lui a interdit. Hada huwa jarsu. Fi dar al-muqam. وفي رواية في دار المقامة ودار المقام هي دار الإقامة فهو استعاذة من دخول النار وليس المراد هنا الجنة لأنه لا يتصور فيها الأذى من أحد فليس فيها جار سوء أصلا فإن جار الدنيا يتحول لأن الجار السيء في دار المقامة أحق بالاستعاذة منه لتتابع الأذى منه ولا يزول عنه ظن الأذى في كل حال وهو من أشد ما يكون أذى للقرب وللجوار فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء. Puis il dit donc, ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre le mauvais voisin dans la demeure de Al-Muqam, de la stabilité qu'on peut traduire, ou de la demeure de résidence.
طيب donc ici il dit le cheikh Raslan hafidhahu Allah ta'ala que dans une autre version on a le terme muqam au lieu de muqam donc darul muqam ou daru al muqamati d'accord donc la demeure de résidence de stabilité donc ici il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cherche refuge auprès d'Allah contre le fait d'entrer en enfer. Contre le fait d'entrer en enfer. Vous voyez, parce qu'il dit ici que Darul Muqam, c'est l'enfer. En gros, c'est comme s'il disait, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais voisin de l'enfer. C'est-à-dire contre l'enfer. Pourquoi? Parce que Darul Muqam, ici, il dit, ne peut pas désigner le paradis. Ce n'est pas le paradis, parce qu'au paradis, il n'y a pas de mauvais voisin. Au paradis, il est impossible et inimaginable qu'il y ait un mauvais voisinage. Taïeb. Donc ici, c'est comme si il cherchait refuge contre l'enfer. Voilà, iyadhu billah. Et on verra aussi que il y a d'autres explications de ce hadith. Bi'idhnillah azza wa jal. Puis il dit, et quand au voisin de la dunya, donc le voisin de la vie terrestre, yatahawwal, lui, il change. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on le quitte, on n'est pas obligé de rester avec lui toute notre existence. Il se peut qu'il déménage, il se peut que toi, tu déménages, il se peut qu'il change, etc., etc. Pourquoi? Parce que le voisin, donc, qui est mauvais, donc, dans une demeure, de stabilité et de résidence, ce voisin-là que tu vas avec qui tu vas devoir rester avec lui tout le temps, forcément il mérite plus à ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la protection et le refuge contre ce genre de voisin. Pourquoi? Parce que son mal, lui, il se perpétue et il continue. Au fil du temps, il ne s'arrête jamais. Quoi qu'il en soit. Vous voyez, donc forcément, il est plus nocif, celui-là, que le voisin qui va être à tes côtés pendant un moment, puis il va partir, il va s'éloigner. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé refuge auprès d'Allah jalla wa ala contre le mauvais voisin. Wa qala kadhalikum al-shaykh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Qal wal muradu بدار الإقامة الاستيطان كالمدينة والقرية والحي والمجتمع فهذه دار إقامة بخلاف الذين يسكنون ويتحولون كالرحل الذين يتتبعون أماكن الرعي وأماكن المصالح فلا يستقرون في مكان فإن من كان مثل هذا من الجيران إذا آذى جاره في وقت قصير صبر عليه وارتحل لكن من كان في دار الإقامة يكون ثابتا مقيما فيتمادى الأذى بجاره إلا إذا وفقه الله جل وعلا وبدل الإساءة بالإحسان فإنه يكسب الأجر ويحصل التآلف بين الجيران. يجي الشيخ زيد المدخلي par rapport à ce hadith et par rapport au terme dar al-muqam. Il dit, c'est-à-dire, c'est la demeure de la résidence. C'est-à-dire, la demeure, l'endroit, la terre où tu habites, où tu résides toute l'année, ou la majorité de l'année. La ville, la communauté, le quartier, le village, le hameau, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des endroits dans lesquels tu demeures et tu habites la majorité de l'année. Contrairement à ceux qui s'arrêtent à un endroit, puis qui le quittent au bout d'un certain temps, tels que les voyageurs, les nomades, qui vont aller dans des endroits en fonction de leurs troupeaux, pour les pâturages, où ils vont aller par rapport à un travail pendant un temps déterminé, puis ils vont partir. Donc ils vont pas rester tout le temps au même endroit. Vous voyez? Donc celui qui subit le mal d'un voisin comme ça, d'un voisin qui est voyageur, d'un voisin qui est nomade d'un voisin qui est venu là pour un temps déterminé et puis il va partir, lui il va pouvoir patienter sur lui et après il va partir, inshallah ta'ala. Mais celui qui a un voisin qui habite à côté de lui et qui est comme lui résident et qui reste toute l'année à ses côtés, bien lui, son mal, il est perpétuel. Son mal, il est continu sur son voisin. C'est pour cela que lui, il cause plus de mal, plus de tort que le voisin qui va partir ou qui n'est pas résident. Sauf si Allah, Jalla wa'ala, bien sûr, il facilite et il ouvre les portes de la guider à ce voisin-là et il change son mal en bienfaisance. Il change son mal en bienfaisance. Donc, dans ce cas-là, alhamdulillah, ta patience sur lui, elle est récompensée, bi'idhnillah azza wa jalla, et résultera de cela l'harmonie, l'amitié et la concorde entre les voisins. D'ailleurs, ما يؤخذ من الحديث أولا دليل على شؤم جار السوء ومدى ضرره لجيرانه والمعروف من واقع الناس أن الجار إما أن يكون جار خير وإما أن يكون جار السوء فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء الذي يسيء إلى جيرانه إما بلسانه وإما بعصاه وإما بأي من أنواع الإساءة فلشدة خطره استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له جار سوء وهكذا المسلمون يحب المسلم أن يكون له جار صالح من أهل الإحسان ومن أهل الصبر ومن أهل كف الأذى فيكسب الأجر ويرتاح جاره نعم Puis il dit, on tire de ce hadith la preuve de la nocivité du mauvais voisin et de l'étendue de son préjudice sur ses voisins. Et il est connu que, de manière réelle et concrète, que les voisins sont soit de bons voisins, soit de mauvais voisins. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cherché refuge, protection contre le mauvais voisin qui est nocif et qui cause tort à ses voisins. Qu'il cause des torts avec sa langue ou avec des coups matériels, physiques. Ou quels que soient les types de préjudices qu'il pourrait lui faire subir. Et donc, en vertu de la gravité et de son mal, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cherché refuge auprès d'Allah jalla wa ala contre le fait d'avoir un mauvais voisin. Donc les musulmans également. Et les musulmans, ils doivent souhaiter et aimer d'avoir des voisins, yani salihin, des voisins qui respectent le droit d'Allah. Des voisins qui respectent le droit des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit bien sûr chercher et rechercher un voisinage pieux, un voisinage bienfaisant. Il ne doit pas aller dans les endroits où il sait que il y a un mauvais voisinage. Il sait qu'il sera dérangé par le voisinage. Là, il doit les éviter. Il doit aller vers les voisins qui patientent, qui sont bienfaisants et qui ne causent pas tort à leurs voisins. Taïeb. Et ainsi, alhamdoulilah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi également les gens qui patientent face au voisinage, les gens qui ne causent pas tort aux voisins, afin d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que son voisin à lui soit également apaisé à ses côtés. Naam. Wa qala al-imam al-Bukhari rahimahullah,
حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. نعم، فهذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن. ابن مغراء صدوق. Donc on passe au hadith suivant numéro 118. Il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Makhlad ibn Malik nous a raconté. Il a dit عبد الرحمن ابن مغراء nous a raconté. Il a dit بوريد ابن عبد الله nous a raconté. Selon Abi Burda, selon Abi Musa, et Abi Musa al-Ash'ari, le compagnon Abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه. Il a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit l'heure ne viendra pas, c'est-à-dire l'heure de la fin des temps, l'heure ne viendra pas avant que l'homme ne tue son voisin, son frère et son père. L'heure ne viendra pas de la fin des temps tant que l'homme ne tuera pas son voisin et son frère et son père. Subhanallah. Donc ce hadith, il est hassan, il est bon. Ce hadith qui est bon. Et parmi eux, on a Ibn Maghra, qui fait partie des rapporteurs véridiques. Il y en a également Bouraïd ibn Abdillah, selon Abi Burda, selon Abi Musa al-Ash'ari. Donc pour la faïda, Abu Burda, c'est le fils de Abu Musa, le compagnon. Et Bouraïd ibn Abdillah, c'est le fils d'Abi Burda. Donc on voit ici que hein, le petit-fils a rapporté du père, puis du grand-père. Et du grand-père, yani. Tayyib. Rahmatullahi alayhim wa radiyallahu anhum ajma'in. Fa ma yukhadhu min al-hadith, akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an 'alamatin min 'alamat as-sa'ah as-sughra. Wa hadhihi al-'alama min 'alamat as-sa'ah as-sughra hiya shuyu' al-qatl. Shuyu' al-qatl. Wa la ya'ni hadha muqatalat al-muslimin al-kuffar. La. وإنما هو قتل المسلمين للمسلمين يقتل بعضهم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. قال الشيخ في إحصائية للقتلى في مدينة القاهرة في 24 ساعة مضت قتل فوق 400 قتل فوق 400 أي قتلوا بوسائل مختلفة من أجل النهب والسلب والضغائن والمشاجرات وكل ذلك لانفلات الأمن في البلاد فإن لله وإنا إليه راجعون. On tire de ce hadith de Cheikh Raslan حفظه الله تعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم a informé ici sur un des signes parmi les signes mineurs de la fin des temps. Un des signes parmi les signes mineurs de la fin des temps. Et parmi ces signes, donc, la propagation des tueries, la propagation des meurtres. Et cela ne concerne pas yani, les tueries qu'il y a en temps de guerre. Non. Hein, yani, en temps de guerre, de lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les musulmans et les koufars d'un côté, là. Il dit que cela concerne les meurtres entre musulmans, les tueries, les musulmans avec les musulmans, les uns tuant les autres. Hein? Lorsqu'il a dit, jusqu'à ce que l'homme tue son voisin, son frère et son père. Subhanallah. Il dit le Cheikh Raslan fait dans Allah Ta'ala que dans les statistiques concernant le nombre de tués dans la ville de Qahira, donc au Caire en Égypte, la ville du Caire, la capitale égyptienne, il dit durant les dernières 24 heures, il y a eu
plus de 400 tués dans la seule ville de Qahira. Dans les dernières 24 heures, il y a eu plus de 400 tués. Taïeb. Et on imagine que parmi les tués, il y a des gens qui ont tué leurs voisins, leurs amis, leurs frères, leurs pères, leurs enfants des fois. Et ils les tuent donc par des procédés divers et variés, ou pour des raisons différentes. Il y en a certains, c'est pour le vol, d'autres c'est le cambriolage, d'autres c'est pour des rancunes, des vengeances. D'autres, c'est des bagarres, des querelles, et autres. Et tout cela parce que la sécurité a disparu. Allah Jalla wa Ala a enlevé la sécurité. Il a enlevé la sécurité des terres, et des endroits, et des pays, des villes. Taïeb, c'est à Allah qu'on appartient, et c'est à lui qu'on retourne. Allah al-Musta'an. Et cela n'est pas étonnant lorsque tu vois que, par exemple ici en Europe, en France, les gens se battent, des fois pour des pots de Nutella. Ils s'arrachent les cheveux. Ils se battent pour du papier toilette. Pendant le confinement du coronavirus, les gens se battent pour ces choses-là. Donc il n'est pas étonnant que les gens se mettront à tuer également leurs voisins pour des choses futiles. Et leur propre famille, comme il a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela fait partie des signes mineurs de la fin des temps. Les signes mineurs de la fin des temps. وَلِهَذَا قَالَ شَيْخ زَيْدَ الْمَدْخَلِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ أَوْ بَيَانٌ مُعْجِزَةٍ للنبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بوقوع أمور ستقع في آخر الزمان وفي الحديث أيضا دليل على بشاعة جريمة القتل ظلما وعدوانا لا سيما قتل القريب والجار وفيه دليل على أن الرحمة تنزع من القلوب في آخر الزمان فيبقى الناس كالوحوش يأكل بعضها بعضا. جل الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى dans ce hadith on a la démonstration et l'exposé du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce miracle, c'est quoi? C'est le fait qu'il est informé d'une chose du futur. Des choses du futur et qui arriveront à la fin des temps. Donc ça seul, peut le savoir que celui à qui Allah Jalla wa Ala a fait une révélation. On a aussi dans ce hadith la preuve du caractère horrible du crime du fait de tuer quelqu'un. Injustement, par agression, sans droit, et surtout le fait de tuer un proche, c'est encore pire. Tuer un proche, tuer quelqu'un qui habite à côté de chez toi. Et dans ce hadith également, on a la preuve que à la fin des temps, Allah Jalla wa Ala va enlever le rahma. Il va enlever taïeb, la clémence, l'indulgence, la compassion du cœur des créatures. Et les gens deviendront ainsi comme des animaux sauvages, des monstres féroces. Ils vont se manger les uns les autres. Et chaque année, on voit le comportement des gens. Chaque année, on voit que les gens sont de pire en pire. Que ce soit chez Al-Kuffar ou chez les musulmans. Malheureusement. Les gens se déchirent. Des familles entières se déchirent pour des raisons matérielles. À cause de l'argent. Et cela, donc, peut
atteindre le degré du meurtre. Qu'Allah nous en préserve. طيب. فننتقل إلى باب لا يؤذي جاره. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة هي من أهل الجنة أعيد قالوا يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة أي فلانة أخرى تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله هي من أهل الجنة. Donc on passe au chapitre suivant intitulé le musulman yani entre parenthèses ne fait pas du mal à son voisin. لا يؤذي جاره. لا يؤذي جاره. Il dit l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى Musaddad nous a rapporté. Musaddad ibn Musarhad, rahimahullah ta'ala. Il a dit, Abdul Wahid nous a rapporté. Abdul Wahid ibn Ziyad, rahimahullah. Il a dit, Al-A'mash nous a rapporté. Al-A'mash, yani Sulayman ibn Mihran. Sulayman ibn Mihran, rahimahullah ta'ala. Il a dit, Abu Yahya, l'esclave affranchi de Ja'da ibn Hubayra, a dit, j'ai entendu Abu Huraira, radiallahu anhu, dire, il a été dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, une telle, yani une femme, une telle, prie la nuit, elle prie la nuit, jeûne le jour. وتفعل. Et elle fait d'autres actes encore d'adoration, nombreuses adorations. وتصدق. C'est-à-dire, elle verse l'aumône, elle donne l'aumône. Mais, elle fait du mal à ses voisins. Mais, elle fait du mal à ses voisins par sa langue. Par sa langue. C'est-à-dire, avec ses paroles. Hein? Et là, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a aucun bien en elle. Pas de bien en elle. Elle fait partie des gens de l'enfer. Elle fait partie des gens de l'enfer. Et là, ils ont dit, wa fulana, et une telle, et une autre femme, tusalli al-maktouba, elle prie les prières obligatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne prie pas la nuit. Elle prie seulement les prières obligatoires. وَتَصَدَّقُوا بِأَثْوَارِ Et elle donne en aumône des athwars. On verra c'est quoi l'athwar. Elle donne des athwars. وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا Mais elle ne fait du mal à personne. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, elle fait partie des gens du paradis. Elle fait partie des gens du paradis. الله أكبر. فهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث صحيح كما في سلسلة الصحيحة صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده وأخرجه
Ibn Hibban.
Donc mes frères et mes sœurs, ce hadith, il est authentique. Comme l'a authentifié le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et il a aussi également été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et Ibn Hibban. Et parmi donc les rapporteurs du hadith, hein, on a cité, il y a Abu Yahya, Mawla, Ja'adata, Ibn Hubayra, Wahawa Thiqa. Donc on a, parmi les rapporteurs fiables de ce hadith, un certain Abu Yahya, Mawla. Donc le terme Mawla, lorsqu'il est mentionné dans ce contexte-là, dans une chaîne de transmission, eh bien on l'avait déjà mentionné plusieurs fois, c'est l'esclave affranchi d'un tel. Donc là c'est Abu Yahya, l'esclave affranchi, Mawla, de Ja'ada ibn Hubayra. طيب معاني الكلمات قال إن فلانة فلانة أي هي كناية عن اسم المرأة وهذا من أدب الأصحاب فإنهم كانوا إذا حكوا عمن أتى بأمر ويكون هذا الأمر مما يؤخذ عليه أو يترتب عليه عقاب أبهموا من وقع منه ذلك ولم يذكروا اسمه سترا عليه. Donc, parmi les mots de ce hadith, hein, les sahaba, ils ont dit une telle, fulana. Donc, fulana pour un garçon, fulana pour une fille. Donc, ça, c'est pour remplacer le prénom de la personne. Pour pas dire, yani, le prénom de la personne, on va dire fulana à la place. Ou fulan. Taïe. Donc, ceci fait partie des bons comportements et de la bonne moralité des compagnons radiyallahu anhum. Lorsque il parlait de quelqu'un, d'une personne qui a fait une chose et que cette chose-là est une chose qui est répréhensible et qui est condamnable ou qui peut engendrer une punition, eh bien, il ne prononçait pas le nom de la personne. Il disait donc, il parlait de cette personne-là, mais de manière anonyme. Ils anonymisaient, si vous voulez, la personne. Au lieu de dire Rachid il a fait, Zayd il a fait, hein, Fatima elle a fait. Il disait, un tel a fait, une telle a dit, afin de dissimuler l'identité de la personne. طيب, فقالوا, فلانة تقوم الليل, une telle, elle prie la nuit, elle prie la nuit. وتصوم النهار, et le jour elle jeûne. وتفعل, ما معنى تفعل, هذه اللفظة, في حد ذاتها تعني الكثير والكثير لأنه حذف المفعول به حذف ما تفعل وإبهامه يدل على تعظيمه وكذلك تصدق وحلف المصدق به للدلالة على كثرته ووفرته وعظمته وفي مقابل ذلك في المرأة التي لا تؤذي أحدا وتصدق بأثوار. Donc ici ils disent les sahaba وتفعل et elle fait, d'accord. Elle fait. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, après taf'al, on dit wa taf'alu kada wa kada. Taf'alu, ceci et cela. Mais là, ils ont dit que taf'al. Voyez? Donc, cette expression-là, utilisée comme ça, elle signifie en fait beaucoup de choses. Elle faisait, yani, beaucoup de choses. Et elle fait encore, donc, hormis le fait qu'elle prie la nuit, qu'elle jeûne le jour, elle fait encore beaucoup de choses. Parmi les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb, donc le fait qu'ils ont parlé de ces actes ici de façon yani, indéfinie et indéterminée montre encore plus l'ampleur de ces actes, de ces adorations qu'elle fait. Hormis le jeûne et la prière, on imagine, hormis les aumônes qu'elle peut faire. Et pareil pour lorsqu'ils ont dit « wa tasaddaq ». C'est-à-dire, elle verse le mois, mais qu'est-ce qu'elle donne? Ils n'ont pas précisé ici, qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'elle donne de la nourriture, de l'argent, de l'or?
Qu'est-ce qu'elles donnent? Quelle quantité? On ne sait pas. Bien, le fait qu'ils n'ont pas déterminé de manière précise la quantité qu'elles donnaient, cela montre encore une fois qu'elles donnaient beaucoup. On imagine qu'elles donnaient énormément tous les jours aux pauvres, à ses voisins, à ses proches, etc., etc. Taïeb. Et en face de cela, lorsqu'ils ont mentionné la seconde femme, ils ont dit quoi? Fulana, mava, tusalli al-maktouba. Elle prie les prières obligatoires. Donc ça veut dire, en gros, elle ne prie pas à la nuit, mais elle se limite aux cinq prières obligatoires. Voyez? Wa tasaddaqu bi afwar. Et elle donne en aumône. Là, ils ont précisé. Hein, ils n'ont pas dit juste tasaddaq, elle donne. Non, ils ont dit, elle donne des athwar. C'est quoi les athwar? En fait, c'est des morceaux de fromage. Elle donne des morceaux de fromage. Ça y est, donc c'est quelque chose qui est peu. Qui est peu et qui a peu de valeur en soi. Ça y est? Naam. ولهذا يقول بأثوار أي الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط والأقط هو الجبن المجفف يتخذ من مغيذ لبن الغنم لا كما يتبادر إلى ذهن الإنسان على حسب العرف اللغوي العامي المستخدم في ألسنة الناس لأنه قد يقول وتصدق بأثوار جمع ثور وهذا بذل عظيم وعطاء جليل لكن الأثوار ها هنا جمع الثور وهي القطعة من الأقط. طيب. Donc cette deuxième, la seconde femme, elle donne, mais elle donne يعني, peu de choses. Donc elle donne ici des أثوار. أثوار, c'est le pluriel de ثور. الثور, dans la langue arabe, désigne un bout de fromage sec, fromage séché. En arabe, on dit أقط, du fromage séché. Taïeb, qui a été donc puisé du lait des bêtes. Du lait des bêtes, troupeaux, tels que les moutons ou la vache. Taïeb. Naam. Donc, ce lait-là, c'est un lait dont on a extrait le gras et avec lequel on a fait ce fromage. Et c'est pas la Al-Thawr ici, ou Al-Athwar, ne désigne pas une fortune, qu'on pourrait le croire. Certains parmi les Arabes, qui dans leur langage familier, et notamment chez les gens de la masse, ils utilisent ce terme-là, Al-Thawr, pour parler au contraire d'une fortune, d'une somme faramineuse d'argent. Voyez, donc ils croient que cela désigne le fait que cette seconde femme aussi donne énormément d'argent. Non, c'est pas ça, au contraire. Ici, l'athwar, ça désigne juste des morceaux de fromage. Des morceaux de fromage. Taïeb. Et il est connu que la fortune, dans l'arabe littéraire, on dit farwa. Et non athwar, thawr. On dit farwa. La farwa, c'est une fortune. Mais ici, athwar, c'est des morceaux de fromage. Naam. Taïeb. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On terminera l'explication de ce hadith, yani, qui est grandiose. Naam. Et donc on continuera jeudi prochain, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته